France Musique. Bonjour Emmanuel Denegri.
Bonjour.
Bienvenue dans Musique Matin. Vous êtes soprano et vous serez en concert samedi prochain le 24 août au Festival de la Chaise Dieu, festival en partenariat avec France Musique qui se situe entre Clermont-Ferrand et le Puy-en-Velay à peu près. Vous donnerez en l'abbatiale Saint-Robert de la Chaise Dieu le martyr de Sainte Théodosie ou Sainte Théodosia d'Alessandro Scarlatti avec l'ensemble Les Accents dirigé par Thibaut Noali. Vous serez aux côtés du ténor Emiliano González Toro, la contralto Antea Pichanic et le baryton Renato Dolcini. Un magnifique oratorio, le martyr de Sainte Théodosie, je le dis à la française, qui dresse le portrait d'une martyre.
D'une martyre chrétienne, oui. Et son chemin initiatique vers le martyr. Voilà.
Et c'est vous qui tiendrez le rôle de cette Sainte Théodosie.
Oui, tout à fait.
Emmanuel Denegri, vous connaissiez cette partition ?
Ah non, pas du tout.
Ça vous fait quoi à chaque fois hein ? C'est un grand moment d'ouvrir une partition, de découvrir une partition.
Ah oui, et puis en plus, pour le coup, c'est mon premier Scarlatti aussi. Donc du coup, c'est toujours émouvant en fait de découvrir le langage d'un compositeur. Bon, il est prolixe, hein, il a écrit tellement que. Mais là, ça, c'est. Je connaissais le Il Primo Muccio pas mal. En fait, c'est un disque que j'ai beaucoup écouté. Mais ça, c'est oratorio inconnu au bataillon. Je crois que c'est son deuxième ou troisième oratorio. Il est pas beaucoup donné. Donc.
Ouais. Et là, il sera donné donc le 24 août au Festival de la Chaise Dieu. C'est un festival que vous connaissez bien. C'est la troisième fois que vous irez cet été. C'est une ambiance particulière.
Oui, c'est un chouette festival parce qu'il y a une programmation assez variée, un public assez fidèle aussi, et puis il y a quelque chose de particulier dans le lieu aussi parce que c'est un lieu quand même assez somptueux. Là, comme ça, perdu au milieu des montagnes, quand on arrive sur cette petite place, qu'on voit cette espèce d'immense vaisseau.
Au ciel,
des...
ouais.
Ah oui, c'est splendide. Et du coup, pour ce genre de, je trouve que pour ce genre de répertoire, c'est vraiment idéal, quoi.
Vous donniez en août 2017 avec le Banquet Céleste de Damien Guillon, d'ailleurs que je reçois le 21 août prochain à votre place.
Vous l'embrasserez de ma part.
Bah oui, avec plaisir. Vous donniez Madeleine au pied du Christ, un autre oratorio, mais d'Antonio Caldara. Mm-hmm. Le public, il semble heureux de découvrir des nouveaux répertoires. Est-ce que vous aussi, ça crée une émulsion de la découverte ?
Ah oui, tout à fait. Les gens sont curieux, en fait. À chaque fois, on se demande, est-ce que les gens vont
venir ? Est-ce que c'est risqué de proposer des oratorios comme ça ?
Et finalement, les gens sont super heureux. Et puis en plus, c'est une musique qui... En plus, ce répertoire-là, c'est une musique qui est très émotionnelle, où les affects sont vraiment... vraiment souligné par une musique et par des harmonies qui sont assez étonnantes et les gens sont hyper ravis de rencontrer cette musique quoi. À chaque fois c'est un clash finalement.
Vous parlez d'émotion, alors là j'en ai eu une vraiment justement un extrait de cet oratorio Madeleine au pied du Christ, l'air Per il mar del pianto mio, grâce à la mer de mes pleurs. À chaque fois que j'écoute cet air je pleure hein, déjà depuis deux jours, donc on va l'écouter et on en parle juste après. Il est 8h33 sur France Musique.
Thank you.
8h38 sur France Musique, Per Ilmar del Pianto Mio, Grâce à la mer de mes pleurs, l'air de Marie-Madeleine dans l'acte 2 de Madeleine au pied du Christ, oratorio de Caldara par le banquet céleste dirigé par Damien Guillon, et la voix bouleversante ici de mon invité ce matin, Emmanuel de Négri, dans le rôle titre donc Madeleine. Une émotion vraiment dans le dépouillement, Emmanuel de Négri.
Ah là, vraiment, on est nus, de toute façon. Il y a cette espèce d'ostinato lancinant dessous. Il y a juste cette espèce de plainte.
Une plainte que vous connaissez depuis très longtemps. Vous me racontiez une anecdote pendant vos études.
Oui, je connaissais très bien l'enregistrement de Jacobs, en fait, parce que
de 95.
C'est ça, je vendais des disques. J'étais vendeuse de disques dans une boutique Harmonia Mundi à Montpellier. Je mettais ça à fond dans le... Je mettais ce morceau-là.
Et tout le monde venait dans la boutique.
Ah oui, ah oui. Pour attirer les gens, c'était...
Et qui chantait le rôle de Madeleine ?
Mais c'était Maria Cristina Kier. Donc j'adore la voix. C'était d'ailleurs assez émouvant pour moi de chanter ce rôle-là. On a des voix tellement différentes aussi, donc... Faire ça bien, c'était chouette.
Madeleine tiraillée entre l'amour terrestre et l'amour céleste qui se dispute son âme. Et puis la martyre Théodosie, donc, que vous allez interpréter à la Chaise-Dieu le 24 août. On vous confie souvent des rôles souvent tragiques.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Comment ça se fait?
Je sais pas, honnêtement. Bon, j'ai une histoire personnelle un petit peu compliquée, un petit peu difficile. Peut-être que c'est quelque chose qui s'entend, je sais pas. Mais c'est aussi peut-être... Je sais pas, moi, mon mysticisme, il s'exprime dans la musique. Je suis pas une très grande croyante dans la vie de tous les jours. Mais voilà, quoi, il suffit de rencontrer un Caravage ou d'écouter cette musique-là pour être en contact avec quelque chose
au-delà.
Au-delà, voilà, c'est ça. Donc.
Emmanuel de Négri, après des études à Nîmes et à Paris, vous avez intégré en 2009 le Jardin des Voix, l'Académie baroque des arts florissants. Et donc, vous avez rencontré William Christie, un moment important dans votre carrière de chanteuse. Qu'est-ce qui vous a tant marqué dans cette rencontre? Beaucoup de choses.
C'est beaucoup de choses, c'est difficile de résumer, mais c'est une personnalité assez incroyable, William Christie. Et puis son désir de transmission est tellement grand, de transmission de la méthode art flow, de l'amour de cette musique, de la grâce, de l'écoute. Oui, enfin, ça a été quand même bouleversant.
Quand vous dites la méthode art flow, est-ce que vous pouvez nous en dire même quelques exemples? Qu'est-ce qui caractérise tant?
Alors, la méthode art flow, c'est aller faire des recherches, c'est aller dans la bibliothèque et y chercher. C'est ce qu'il a fait, de toute façon, pendant des années, le travail d'archiviste. Donc, c'est ça.
Et dans l'académie aussi, donc vous ne chantiez pas seulement, c'était pas juste du chant, donc c'était beaucoup
on a beaucoup travaillé en amont, ça c'est sûr, et puis le texte, quoi.
Ouais.
Travailler sur le texte, c'est quand même ça la méthode art flow, c'est quand même être dans le drame du texte.
Et vous avez commencé vos études par le violoncelle, mais aussi le théâtre a une grande importance dans votre vie. Donc le texte, il est là. Ça vous sert aujourd'hui le théâtre, justement, et même le violoncelle, pourquoi pas, dans le phrasé, dans justement l'approche du mot, les lignes mélodiques aussi?
Alors c'est vrai que le violoncelle, j'en ai fait quand j'étais petite. J'ai jamais été une grande violoncelliste, mais en revanche, je pense que ça me... Pour l'oreille, c'est formateur déjà, et aussi en termes de prise de début de son et de sortie de son, je pense souvent en termes d'archer, fait, dans ma tête. Et pour les respirations, je pense longueur d'archer aussi, c'est comment on dépense l'air, je pense archer. Donc ça, c'est peut-être juste ce qui me reste de ça. Et puis le théâtre, ben oui, enfin notre métier, c'est quand même ça. C'est quand même, c'est qu'il y a toujours du texte. On est sur scène, on est dans des personnages. Moi, c'est ça ma grande passion quand même.
Emmanuel de Négri, vous produisez avec les arts florissants, on l'a vu, le concert d'Astrée d'Emmanuel Haïm, le concert spirituel d'Hervé Niquet, la chambre claire de Brice Sailly ou encore Pygmalion de Raphaël Pichon. Nous vous entendons donc assez souvent, en tout cas dans le répertoire baroque ou Mozart, que vous aimez beaucoup. Mais tout de même, l'an dernier, pour vos débuts à l'Opéra Bastille à Paris, vous étiez née là dans Giannis Kiki, c'est ça, de Puccini. Est-ce qu'aujourd'hui encore, vous avez envie de chanter d'autres répertoires? Et lesquels?
Alors oui, moi il y a plein... Disons que c'est pas en termes de répertoire que je réfléchis, c'est plus en termes de rôle.
Oui.
Il y a certains rôles qui me font rêver encore. Hein,
dans certains opéras, lesquels
oui,
par
il y a
exemple
certains... bah, Mélisande, c'est vraiment un rôle que j'adore et puis c'est vraiment mon opéra préféré. Clairement, Péléas, c'est, pour moi, ça a été une révélation progressive en plus. À chaque écoute, j'entends quelque chose de nouveau et c'est, enfin, Debussy, c'est vraiment splendide. Puis ensuite, Britten, j'adore Britten. J'adore Stravinsky. Bon, il y a plein de, il y a tellement de choses que j'aimerais chanter. Dans le bel canto, maintenant j'ai 40 ans, je sais aussi qu'il y a tellement de jeunes sopranos qui ont ça dans le sang depuis toujours. Moi, je suis contente de défendre le bel canto du baroque. Mmh. C'est quelque chose qui maintenant fait partie de moi, de ma construction, de la construction de mon instrument. Je me suis éclatée dans le Puccini, hein. Je me suis vraiment amusée. Et puis, et en plus, c'est vraiment une musique splendide, quoi. Mais après, je pense que si on rentre dans des Donizetti, tout ça, je pense qu'on me le donnera pas, tout simplement.
Ah oui.
Oui, je pense qu'on me le donnera pas. Mais ce qui est dommage d'ailleurs, parce que c'est marrant comme partition. Mais après, voilà, il y a tellement encore de choses
bien
que
sûr,
j'ai pas
fait.
Dans du bel canto andalien, il y a encore plein de choses. Et puis dans Mozart, c'est quand même ce que je préfère chanter sur scène. Et j'ai encore plein de rôles que j'ai pas, qu'on m'a pas offert encore. Donc.
Vous l'avez dit, vous avez 40 ans. Est-ce que votre voix a changé? Est-ce qu'une voix de soprano change au point de pouvoir justement aborder des nouveaux rôles auxquels on n'aurait pas pensé au début de sa carrière?
Alors, effectivement.
Au niveau vraiment de la voix.
Alors, la voix, il y a quand même plein d'étapes. La voix, c'est quand même son histoire. Le corps, il change. Il y a eu l'étape, moi, c'est ma grossesse qui m'a énormément fait changer. Qui a vraiment changé la technique vocale, la prise de souffle, la prise de conscience aussi de plein de choses dans le corps. Donc ça a été une première étape. Et après, effectivement, je pense que au fur et à mesure, c'est les partitions qui nous sculptent aussi, et puis les rencontres avec les nouveaux compositeurs, les nouveaux rôles, ça fait avancer. Il y a une maturité physique aussi. Il y a des choses qui sont beaucoup plus faciles, beaucoup plus ancrées. Enfin, je me rends compte quand je prends une nouvelle partition ou quand je reprends des vieilles partitions. Là, je me dis, ah, pétard. Hein. Ah, bah, dis donc, c'est plus facile. Donc, c'est... oui, évidemment, ça avance. Il y a une maturation qui se fait, quoi.
Et il y a aussi des rencontres qui restent et qui se poursuivent avec les arts florissants, justement, William Christiel à Baguette. Vous avez enregistré deux volumes chez Harmonia Mundi autour d'air sérieux et d'air à boire. Mm-hmm. Le premier, Bien que l'amour est sorti en 2016, et le deuxième, tout récemment, cette année, Si vous vouliez un jour. L'air, c'est un genre musical emblématique du XVIIe siècle français. Il y a toutes sortes d'air, hein, l'air de cour, l'air de ballet, l'air à boire, donc. Et c'est un maillon important vers l'opéra français, l'air.
L'air de cour.
Oui.
Oui, bah d'ailleurs Lully qui était très proche de la famille Lambert a vraiment su capter cet art-là. Et puis dans Attis, il y a des petits airs de cour aussi qui sont disséminés, il y a des petits arioso aussi qui sont très clairement en filiation.
Nous allons écouter justement un des airs du dernier disque paru chez Harmonia Mundi, Si vous vouliez un jour. Emmanuel Denegri, nous vous entendons dans Andate Cercate, extrait de la Pastoraletta Amor Vince Ogni Cosa. L'amour vint toute chose de Marc-Antoine Charpentier, mais c'est un compositeur français, né en 1643. Pourquoi cet air en italien?
Charpentier a beaucoup écrit...
Il a séjourné en Italie aussi.
Oui, c'est ça. Donc, c'est pas très très étonnant non plus. Et puis, c'est le style aussi de cette pièce-là. C'est relié au texte aussi. Donc, vous allez voir.
Oh.
8h50 sur France Musique, Andate Cercate de Marc-Antoine Charpentier avec les Arts Florissants dirigés par William Christie et la voix d'Emmanuel de Négri, mon invité ce matin. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette pastorelle?
C'est ça qui est génial en fait avec ce morceau, c'est que vraiment on peut faire de la poésie avec des choses un peu légères, quoi, parce que pour le coup là c'est une bergère qui a perdu son agneau et qui pleure son agneau. C'est tout simple et pourtant c'est ça prend aux tripes parce que c'est tout beau et tout nu, cette émotion là qui est tellement bien écrite. Ça c'est quand même quelque chose qui est l'art du poète, je trouve, de pouvoir faire un truc magnifique avec un petit sujet.
Emmanuel de Négri, ça fait 10 ans que vous avez rencontré William Christie, les Arts Florissants, une belle rencontre qui débouche sur de beaux projets, donc on vient d'en écouter un extrait.
Ouais, il me tient vachement à cœur, celui-là, ce groupe-là.
Est-ce qu'un troisième volet est prévu pour cette série d'air sérieux et à boire?
Alors, on a déjà donné des concerts sur un troisième programme,
à la Philharmonie de Paris.
À la Philharmonie de Paris et ailleurs, et donc du coup, c'était plutôt... c'était plutôt un répertoire un peu antérieur, avec Boissé, Moulinier, donc vraiment les pères de l'ère de cour. Et c'était très intéressant. Le disque va bientôt sortir. On l'a déjà enregistré, il sortira bientôt.
Emmanuel de Négri, avant de se quitter déjà, vous venez de triompher dans les Boréades de Rameau en mars dernier à l'Opéra de Dijon, une mise en scène de l'Australien Barry Kosky. Vous qui venez du monde du théâtre aussi, l'importance du mot, on l'a vu, on le colore, mais comment on le met en valeur dans des mises en scène? En fait, c'est quand même un vrai sujet, la mise en scène qui parfois prend beaucoup de place, entre guillemets, il y a un débat aussi qui se passe. Est-ce que vous qui aimait la scène et qui habitait vraiment les personnages, est-ce que c'est difficile parfois de se retrouver dans des mises en scène un peu particulières? Est-ce qu'on a son mot à dire?
On a son mot à dire. Oui et non. On est là pour on défend aussi la vision du metteur en scène. Il a envie de dire quelque chose, de faire dire quelque chose à l'œuvre, de parler au public à travers cette œuvre-là. Barry Kosky est un génie. Total, en ce qui me concerne, je trouve que c'est un mec génial. Il a une vision très particulière, très à lui de ces œuvres-là. C'est pas simple de mettre en scène Rameau. Parce qu'il y a des divertissements en plein milieu, c'est assez compliqué. Mais il le fait dans un dépouillement qui laisse la place à la musique, qui laisse la place aussi à la musique de s'exprimer. Et dans son Castor, c'était aussi la même chose. Des lignes très simples et tout fixé sur le théâtre, sur ce qui se passe sur scène et le rapport entre les protagonistes.
Castor et Pollux, vous en parliez, nous allons vous écouter dans l'air de Télaïr, éclater mes justes regrets. Je vous souhaite une très belle journée, Emmanuel de Négri.
Merci pour votre invitation.
Merci à vous d'être venu, nous vous écoutons. L'air de Télaïr éclatait mes justes regrets de l'opéra Castor et Pollux de Rameau, l'ensemble Pygmalion dirigé par Raphaël Pichon et la soprano Emmanuelle de Négri, mon invité ce matin qui sera en concert donc très prochainement le 24 août au Festival de la Chaise-Dieu pour le Martyr de Sainte Théodosie d'Alessandro Scarlatti, mais un peu plus tard aussi le 29 septembre au Festival de Pontoise avec la Chambre Claire dirigée par Brice Sailly, un programme autour de Anne de la Barre et l'art du chant féminin au XVIIe siècle.
À réécouter sur francemusique.fr.